Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mes chers frères, il est question dans ce passage de l'Évangile du salut. Le salut étant figuré par un grand festin. Le salut, voilà la grande question. D'une certaine manière, l'unique question. Serai-je sauvé? Est-ce que je m'assiérai avec Jésus à la table du festin? Ou serai-je rejeté pour toujours dans les ténèbres extérieures où il y a les pleurs et les grincements de dents? Plus précisément, selon le sens littéral, il s'agit ici du salut des nations. Expliquons brièvement le sens des paroles de notre Seigneur, puis nous verrons comment cette prophétie se réalise dans l'histoire. Ce sera l'occasion de signaler deux erreurs contemporaines. Enfin, nous terminerons par quelques applications pour notre salut personnel. Jésus annonce que des païens nombreux seront admis dans le royaume des cieux, tandis que beaucoup de juifs, auxquels ce royaume était tout d'abord destiné, en seront impitoyablement exclus. Les juifs appelaient les païens des gentils. Non pas qu'ils les trouvaient gentils au sens courant du terme, mais parce que ce mot désignait ceux qui vivaient selon la nature, gentilitaire, sans la loi de Moïse, dont les Juifs étaient si fiers. Ces païens, ou ces gentils, viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire de toutes les directions, de toutes les contrées. Ils viendront prendre place au festin, avec Abraham, Isaac et Jacob. Jésus compare, comme autrefois le prophète Isaïe, le bonheur du ciel aux joies d'un festin somptueux. Ils seront admis avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire avec les saints et célèbres ancêtres du peuple juif. Mais les enfants du royaume seront jetés dehors, dans les ténèbres extérieures. Les enfants du royaume est un hébraïsme pour désigner les Juifs, qui avaient droit les premiers à la possession du royaume des cieux. Ce royaume étant par excellence le lieu de la lumière, les ténèbres extérieures sont celles qui remplissent l'espace situé en dehors de lui. Elle représente donc l'enfer. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces images représentent les violentes souffrances et le désespoir des damnés. Voyons maintenant comment cette prophétie de notre Seigneur se réalise dans l'histoire du salut. Après le péché d'Adam et d'Ève, qui a entraîné toute l'humanité dans la révolte contre Dieu, Dieu aurait pu laisser l'homme à son triste sort. Mais il a choisi de nous sauver, d'envoyer son Fils unique sur la terre pour y offrir le sacrifice qui réparerait la faute d'Adam et Ève, mais aussi tous les péchés du monde, nous donnant ainsi la possibilité de jouir du bonheur du ciel. Pour ce faire, Dieu a décidé de préparer la venue de son Fils en choisissant un peuple qui avait la mission de préparer la venue du Messie, du Sauveur. C'est le peuple juif, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il fallut près de 20 siècles pour faire l'éducation de ce peuple par le moyen des patriarches, de Moïse et des prophètes. Et c'est ici l'occasion de dire un mot d'une erreur qui se répand de nos jours, même parmi les catholiques traditionalistes. Cette erreur est ancienne, puisqu'elle remonte à Marcion, un hérétique qui vécut de 85 à 160 de notre ère. Sous l'influence des thèses gnostiques, Marcion voulait opposer le Dieu de Moïse à celui de l'Évangile et répudier entièrement l'Ancien Testament. Pour lui, le peuple hébreu avait été trompé par une fausse divinité dont Jésus était heureusement venu nous libérer. Dans cette perspective, plus de peuple élu attendant le Messie, plus de prophéties annonçant sa venue, plus de figures bibliques ébauchant ses traits. La loi de Moïse et tout l'Ancien Testament n'étaient qu'une vaste escroquerie, un sinistre mensonge générateur de violence et d'oppression. De nos jours, certains, sous prétexte de dénoncer les ennemis de l'Église et de la civilisation, notamment les juifs talmudistes, prétendent rejeter tout l'Ancien Testament. Et c'est là une erreur grave, car l'Ancien Testament, c'est la moitié de la Révélation, c'est la moitié de la Bible. On ne peut comprendre notre Seigneur Jésus-Christ et l'Évangile si l'on ne connaît l'histoire sainte, la longue préparation de la venue du Fils de Dieu. Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur cette entreprise des marcionistes contemporains contre l'Ancien Testament, nous conseillons la lecture du Sel de la Terre, numéro 108, où le Père Emmanuel Marie examine les arguments de Claude Timmermann, et le Sel de la Terre, numéro 102, où nous avons publié des sermons du cardinal Michel Faulhaber, prononcés à Munich en 1933, dans lesquels le cardinal réfute les arguments de la propagande nazie. Cela dit, malgré cette préparation de 20 siècles, seul un petit nombre de Juifs acceptèrent le Messie. Le peuple juif, dans son ensemble, sous la conduite du Sanhédrin, refusa de le reconnaître. Ils le firent même périr et persécutèrent les apôtres et leurs successeurs. Les apôtres se tournèrent alors vers les nations, vers les païens, comme notre Seigneur leur avait conseillé, ceux que les Juifs appelaient les gentils. C'est ainsi que l'Église fut constituée d'une minorité de Juifs convertis et d'un grand nombre de païens. Saint Paul explique dans son épître aux Romains que cet accueil du Messie par les païens et ce rejet par les Juifs avait été prophétisé. Dieu, en effet, avait dit par le prophète Isaïe : J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté ouvertement à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à Israël, il dit : Tout le jour, j'ai tendu mes mains à un peuple incrédule et qui contredit. Alors saint Paul se pose la question : Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Et c'est là qu'il prophétise que le peuple juif reviendra un jour à son Dieu, se convertira et reconnaîtra le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, nous rencontrons une erreur contemporaine, sans doute moins grave que celle de Marcion, mais quand même très préjudiciable, car elle fausse toute la compréhension de l'histoire. Cette erreur consiste à dire que la conversion des Juifs, annoncée par saint Paul, ne sera pas une conversion du peuple juif dans son ensemble. Ce serait une conversion tout au long de l'histoire d'un certain nombre de Juifs. Il est vrai qu'il y a eu à toutes les époques des conversions de Juifs. Saint Vincent Ferrier, notamment, en a converti un grand nombre. Plus près de nous, nous pourrions citer des noms de Juifs convertis, comme le chevalier Drac, les frères Liebermann, les frères Ratisbonne, ou encore le grand rabbin de Rome, Eugène Zoli, qui se convertit durant la dernière guerre, touché par l'exemple du pape Pie XII, dont il voulut prendre le prénom au baptême, tandis que sa femme se fit baptiser sous le nom d'Eugénie. Il est vrai aussi que quelques pères de l'Église des trois premiers siècles ont envisagé cette conversion des Juifs comme devant se dérouler tout au long de l'histoire. Mais rapidement, l'opinion contraire a prévalu. Et l'on attend la conversion du peuple juif dans son ensemble à la fin des temps. En attendant, comme le manifestent bien des statues ou des sculptures de cathédrales, comme à Paris, à Strasbourg et même à Angers, la synagogue fait face à l'Église. Quand l'Église est faible, comme de nos jours, la synagogue exerce son influence sur les peuples et les carnalise. Quand c'est l'Église qui est forte, elle spiritualise les nations, comme ce fut le cas au Moyen Âge. Mais nous avons assez parlé de l'histoire du salut des peuples. Tâchons de tirer quelques leçons pour notre salut personnel. Pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé les conditions les plus favorables pour notre salut. Il nous a fait venir de l'Orient et de l'Occident. L'Orient, région où paraît la lumière, signifie l'innocence. L'Occident, où le soleil disparaît à l'horizon, signifie le péché. Notre Seigneur appelle des innocents au cœur pur et des pécheurs convertis. Il nous a fait asseoir à la table de son festin avec Abraham, Isaac et Jacob. La table, c'est la table eucharistique. Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Alors, prenons garde de ne pas être comptés parmi les enfants du royaume qui sont jetés dehors dans les ténèbres extérieures. Ne serions-nous pas aussi comme les Juifs du temps de notre Seigneur, rebelles à le suivre? Notre Seigneur ne pourrait-il pas nous dire, comme Dieu disait au peuple juif dans un psaume, « Pendant 40 ans, j'ai été près de ce peuple, et j'ai dit, leur cœur sera toujours rebelle. Du coup, j'ai dit dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Examinons notre cœur. N'est-il pas rebelle, parfois, à faire ce que notre Seigneur nous demande? Est-ce que nous ne servons pas notre Seigneur en espérant de lui des avantages temporels, la santé, une vie confortable ici-bas, comme les Juifs du temps de notre Seigneur attendaient un Messie qui leur donnerait des richesses et un royaume terrestre? Craignons alors que notre Seigneur ne nous rejette dans les ténèbres extérieures, dans l'apostasie de la foi, comme hélas tant de nos contemporains, ou même pire encore, en enfer, où l'on souffre à la fois du feu qui fait pleurer et du froid qui fait grincer des dents. Si nous reconnaissons en nous cette dureté de cœur qui a été la cause du rejet des Juifs, faisons comme le lépreux de l'Évangile et disons à notre Seigneur, « Si vis potes me mundare, si vous le voulez, vous pouvez me purifier. » Ou encore, comme le centurion, dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Oui, dites une parole efficace qui me fera me relever pour vous servir avec plus de fidélité. N'attendons pas la fin de notre vie pour nous convertir, comme les Juifs attendent la fin du monde, car nul ne sait le jour ni l'heure, et nous pourrions bien être surpris par la mort avant de nous être convertis. La grâce de Dieu nous est offerte aujourd'hui. Craignons la grâce qui passe et qui ne repasse pas. Si le lépreux, si le centurion n'avaient pas saisi l'occasion du passage de notre Seigneur, qui sait s'ils auraient eu une autre occasion de salut? Et s'il nous semble parfois qu'il est bien difficile de prendre notre croix et de suivre Jésus, Faisons appel à Notre-Dame. Dimanche dernier, nous avons vu sa puissance sur le cœur de son fils aux noces de Cana. Demandons-lui qu'elle nous apprenne, comme serviteur de la noce, à faire tout ce qu'il nous dit. Alors, nous aurons part au festin éternel, non seulement avec Abraham, Isaac et Jacob, mais avec notre douce Mère du ciel. Demandons-lui qu'elle touche notre cœur pour qu'il ne soit pas rebelle et dur, comme celui des enfants du royaume. Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.